Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine en fin d'émission pour sa chronique. Cher Maurice, bonjour.
Bonjour Caroline.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
D'une recette camerounaise.
Une recette camerounaise, à tout à l'heure, 12h25, pour en savoir un peu plus, j'espère. Êtes-vous amateur de séries, Maurice ?
Ouais, j'aime beaucoup les séries.
Et en particulier de séries qui parlent de cuisine ?
Pas tant que ça, mais j'en ai regardé une ou deux.
Par exemple ?
Comme beaucoup, The Bear.
The Bear, dont on va parler dans cette émission, puisque les Rencontres du Havre, un festival dédié aux séries traditionnellement, consacrent leur 10e édition du 4 au 7 décembre 2025 à un sujet que nous affectionnons particulièrement ici aux Bonnes Choses, n'est-ce pas Maurice ? Après les femmes, les hommes, la politique, la justice, la police, la musique, le futur, la sexualité et la mode, cette année, la cuisine est à l'honneur dans des séries qui se passent dans l'univers de la gastronomie ou qui ont trait aux choses de la table en ce qu'elles disent beaucoup de la société dans son ensemble.
Ce type qui vient dîner ce soir, c'est pas pour m'emballer. Ça me fatigue d'avance.
Yo, yo, 25 pounds.
25, no, 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 I ordered 200.
Pay for 25. Take it up a loop.
Alors donc nous on sert un menu unique à partir de produits frais et de saison. Donc c'est original et audacieux et assumé.
Mais c'est pas très original, ça se fait beaucoup au Japon. Ça s'appelle un menu omakase.
Tamago. Oh, wakatta. Omurice. Tamago kake gohan. Uchi daisuki nan
de ryōri tōshi.
Hey, qu'est-ce qu'il te prend ?
C'est trop cuit. Ça se voit, si tu le vois pas, tu dégages.
Retourne à tes gâteaux et laisse-moi travailler.
Personne ne dégage. Personne n'exige la perfection, surtout pas eux.
Attends, c'est toi qui me parlais d'exigence. Je te parlais de patience aussi.
En tout cas, je peux cuire une viande 10 000 fois mieux que lui.
Calme-toi.
Come have dinner with me.
Why?
Pierre Boileau is cooking tonight. You want to have dinner?
What's he serving?
That's your answer.
I'm just asking.
Well, I can tell you that the man specializes in a reinterpretation of classic Provençal cuisine. Cassoulet, duck with green olives,
yeah.
Saffron chicken.
I haven't had a good saffron chicken in quite some time.
Don't you think you deserve one?
Yes.
Bonjour, Carole Desbarras.
Bonjour.
C'est vous la directrice artistique des Rencontres du Havre. Vous avez sûrement reconnu cette compilation de séries puisque nous avons pris avec notre réalisateur Jean-Christophe Francis les séries que vous allez passer aux Rencontres du Havre. Donc vous avez sûrement reconnu Bistronomia, Carême, The Bear, Macanaï, Scène de ménage et même The West Wing.
Oui, oui. Oui, The West Wing, c'était le dernier extrait. C'est intéressant parce que c'est le président Bartlett, démocrate, qui parle et qui invite son chief of staff, son numéro 2, pour une fois à arrêter de faire de la politique et de travailler et de venir manger parce qu'il y a un chef français. Et ils vont dîner et on ne verra pas le dîner. On verra le début, le chef qui vient, bien sûr, présenter ses plats. Et puis à la fin, on verra le moment où ils prennent le café. Dans The West Wing, c'est la politique, on parle. Le plaisir érotique, c'est la parole, c'est pas la cuisine.
Les West Wing à la Maison Blanche en français. Bonjour Marine Bidot.
Bonjour Caroline.
Merci d'être là également. Alors vous, vous êtes consultante, vous avez co-dirigé le guide Le Fooding pendant 18 ans, guide d'ailleurs qui fête ses 25 ans avec son guide 2026. Et vous êtes à l'origine de la série Bistronomia, diffusée sur francetélé.fr en septembre 2025 et qui a remporté, je crois, le prix du scénario au Festival de La Rochelle. On en a entendu quelques extraits. On va parler d'un certain nombre de ces séries, peut-être en détail, mais un mot d'abord, Carole Desbarras. Pourquoi ce thème de la cuisine, enfin des séries et la cuisine, comment s'est-il imposé après tous les autres ?
Alors, c'est assez drôle parce que moi, je suis directrice artistique. Théoriquement, c'est moi qui donne des idées. Et puis, comme le festival est porté par une association, il y a un membre de l'association qui est venu me voir le dernier jour de la session dernière, me disant « on a pensé que peut-être la cuisine, ce serait bien ». Et comme j'aime cuisiner, j'ai dit « oui, je passe un an à travailler sur le sujet, donc j'ai intérêt quand même à m'intéresser à la chose. » Donc, oui, et puis ensuite, vous rentrez dans le monde de la cuisine et vous découvrez, quand vous êtes comme moi, simplement une cuisinière d'occasion et de ménage, que c'est un monde difficile, plein de violence, plein de talent, plein de glamour, plein d'inventions, et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. C'est pour ça qu'il y a des belles séries qui se concentrent sur la cuisine.
Marine Bidot, avant Bistronomia, vous en regardiez des séries de cuisine ou pas du tout ?
Pas vraiment. Et puis Bistronomia, ça fait un petit moment déjà, en fait. Alors, ça s'appelait pas Bistronomia à l'époque, mais avec Alexandre Camas, le fondateur du Fooding, qui était mon associé à l'époque, c'était en, je dirais, 2018, on a eu cette idée de raconter, à travers une série, ce qu'on vivait. Parce qu'on avait l'impression on a eu l'impression d'assister à quelque chose d'assez révolutionnaire. Et donc, on a commencé à écrire sous un format très simple, une dizaine de pages, des idées de comment témoigner de cette époque. On voulait que ça se passe donc en 2005. Ensuite, on est allé voir un producteur qui nous a présenté Marie-Sophie Chambon, qui est la créatrice de la série, qui a porté vraiment le projet, qui a écrit avec d'autres autrices, Anaïs Carpita, Judith Havas et Camille Pierrard. Et là, je suis rentrée un peu plus dans la série sur le thème de la cuisine. Mais ça a été très très long.
Ça a été un processus très long, et d'ailleurs, je crois que la série Bistronomia, vous l'avez même pensée avant The Bear.
Oui, c'est ce que je vous disais.
The Bear, qui est un peu la référence, et d'ailleurs, The Bear, c'est ce dont parlait Maury en début d'émission. Maury a vu au moins 3 saisons,
il y en
a 5 maintenant. The Bear, c'est un peu la référence. Vous avez commencé par laquelle ? Par The Bear, par exemple, Carole, ou pas du tout ?
Non, moi j'ai commencé par Carême, en fait. J'ai commencé par Carême à Sériemania. Et puis, on était dans le thème de la cuisine, donc je me suis dit, The Bear, on dit que c'est incontournable. C'est incontournable. C'est magnifique. J'adore Bistronomia.
Ça parle de quoi, The Bear ? Racontez-nous un peu.
Ça parle d'un chef tourmenté. Un homme tourmenté qui a des angoisses, qui essaie, à partir d'un petit resto familial dans un quartier à Brooklyn, de monter un grand restaurant. Un très grand restaurant, et qui y arrive. Et ça parle de son travail, de son équipe, ça parle aussi de sa seconde, je sais pas comment vous dites. Vous dites seconde.
Sous-chef, ça voilà.
De sa sous-chef et de sa complicité avec elle. Et c'est à la fois une série extrêmement stressée, dont le montage est presque hystérique. D'ailleurs, il y aura un moment au Havre où une monteuse va dépiauter ce que c'est que le montage en cuisine quand les auteurs veulent montrer que si vous prenez une casserole, elle va vous brûler, et si vous passez près d'une chambre froide, on va vous y enfermer. Donc, il y avait ça, mais il y avait aussi la qualité d'interprétation des acteurs et aussi l'intensité d'une série qui aime à montrer les plats. On montre, on voit la fabrication, les plans serrés. C'est pas du tout une coquetterie. Ça permet de comprendre ce qu'est effectivement le travail d'un commis, mais aussi d'un chef.
The Bear, c'est une série américaine.
Oui.
Vous en avez regardé d'un peu tous les continents. Il n'y en a pas dans tous les pays, mais il y en a sur tous les continents. On a entendu un extrait, par exemple, de Makanaï, qui est signé Kore-eda. Il y a des Françaises, il y a des Anglaises, des Américaines. Est-ce que vous diriez que, maintenant, vous, Carole Desbarras, qui en avez regardé beaucoup pour les Rencontres du Havre, que le monde de la cuisine se prête particulièrement bien à la fois au mode narratif et à la dramaturgie, ou même au côté dramatique des séries, avec ses tensions, avec son stress, avec son côté glamour, sensuel, avec le spectacle des plats, etc.
Tout à fait, tout à fait. La cuisine est un lieu assez clos et dans lequel des tensions arrivent parce qu'il y a, comme dans The Bear, un panneau qui dit « Each second counts », chaque seconde compte, et où la question du temps, je ne sais pas si le chef sera d'accord.
Je suis.
Vous êtes d'accord ?
Je suis, non, mais c'est vrai que le temps est important et surtout, c'est un petit monde dans le grand monde dans lequel on vit. Et puis, la dramaturgie, oui, il y en a plus que d'autres.
Hein, vous jouez votre vie à chaque service quand même.
À chaque service. Et puis, des fois, ça va dans l'excès. Hein, mais une cuisson ratée, bon, peut-être qu'à la maison, on ne s'en rendrait même pas compte. Ou peut-être le client ne s'en rendrait pas compte. Mais pour nous, c'est dramatique. On commence. Et voilà, il y a ce rythme-là, on le vit au quotidien, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut facilement le transcrire à la caméra.
Oui, on voit que c'est à la fois un monde à part, mais c'est aussi vraiment le microcosme de la société. C'est le miroir de la société, ce qu'on voit dans les cuisines.
Tout à fait.
Carole Desbarras.
On a une intervention de Sébastien Papé, qui est un médiathécaire, qui va parler de la cuisine comme lieu central de récit dans les séries des années 50, les séries domestiques. Ça se passe, ils font pas spécialement la cuisine à ce moment-là, mais on se dispute, on s'aime.
Dans la vie, quoi.
Et on
c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans la série, c'est vrai au cinéma.
Hein, ça passe toujours.
Et je voulais juste préciser une chose, c'est que on a voulu, avec Gina Disler, qui est la déléguée générale des rencontres, on a voulu qu'il n'y ait pas que la gastronomie, que la haute cuisine qui soit présente. On a voulu que les femmes et les hommes d'aujourd'hui qui font la cuisine, qui le font dans la sphère domestique, soient aussi présents. C'est pour ça qu'on a voulu que Scène de ménage de Claire Simon, qui est une magnifique série.
Une pionnière, 1991.
Ah ouais, vraiment pionnière. Eh bien, que cette série soit présente parce que c'est l'histoire d'une femme au foyer qui s'occupe des petits pois, de son pull blanc et aussi de faire une tarte. Et on montrera d'ailleurs les petits pois au chef Passard.
C'est 10 épisodes de 4 minutes, voilà. Hein, Scène de ménage, et vous l'aimez particulièrement. Ah oui, comme vous aimez aussi Macanaï, parlez-nous de Macanaï.
Alors Macanaï, c'est magnifique. Ça pose un problème parce que si vous voulez, c'est une série qui a été très, très suivie de polémiques au Japon. En fait, nous, depuis ici, nous adorons cette série parce que elle est idéale. Vous voyez la série jusqu'au bout, vous vous dites, il va y avoir un drame. Il n'y a jamais de drame. Ce sont deux jeunes femmes, deux jeunes filles, qui vont dans une école de geisha apprendre à devenir des geishas. Sauf qu'il y en a une qui est mauvaise dans cet art et qui se révèle excellente en cuisine et qui devient la makanai, c'est-à-dire la cuisinière pour toute l'école et qui est splendide dans sa façon généreuse de vouloir nourrir les autres. Et là, il y avait quelque chose qui était intermédiaire entre la haute gastronomie et la cuisine de tous les jours. C'est-à-dire ce moment où, si on n'est pas juste en train de décongeler quelque chose, cette envie que l'homme ou la femme qui fait la cuisine peut avoir de donner du plaisir autour ou de lui ou d'elle.
Quelle différence faites-vous, si c'est possible déjà maintenant avec un peu de recul, entre ces séries internationales, étrangères, et les séries françaises ? Dans la représentation de ce monde de la cuisine, ou même de notre société ?
Les séries françaises commencent à venir au niveau des séries internationales. Elles ne l'étaient pas. Et c'est vrai qu'il y a des séries qui marquent. Je pense que Bistronomia marque un cran supérieur dans ce qui a été fait, parce que non seulement le récit est haletant, non seulement il est extrêmement documenté, mais il y a aussi une facture qui est remarquable. Oui. Et ça, c'est tout à fait intéressant.
C'est le soin apporté à la réalité. Je crois que dans les séries que vous avez citées, ce qui est remarquable, c'est les plats. C'est vraiment cuisiné. Ça donne vraiment envie, c'est pas une vague représentation de la cuisine. Nous, ça a été très important pour nous de présenter des vrais plats, de présenter des choses appétissantes. Dans Macanaï, ce qui est incroyable, c'est vraiment...
Vous avez vu Macanaï.
Oui, la sensualité... la sensualité avec laquelle elle dresse, les bouillons, c'est très, très, très délicat, et je crois que c'est aussi ça qui a plu. Dans The Bear, en effet, il y a quelque chose de très puissant, hystérique, parfois, je trouve, limite malaisant. mais on m'a dit que de Bistronomia, pour certaines personnes aussi, le premier épisode est extrêmement violent.
Vous parlez de sensualité, de la façon dont cuisiner peut donner envie et éveiller toutes les papilles, ça tombe bien dans cette émission. C'est vrai aussi, me semble-t-il, de cette série Carême de Martin Bourboulon avec Benjamin Voisin dans le rôle d'Antonin Carême. C'est très romancé, hein, mais sur le vrai chef, le grand chef Antonin Carême, qui est l'inventeur de la pièce montée et du vol au vent. Et il est question de rapport de pouvoir, il est question de la cuisine comme spectacle, avec énormément de sensualité. On en écoute un extrait, la bande-annonce.
La nourriture, c'est ce qui fait un pays. Comme sa langue, son art. C'est le premier que nous connaissons. La nourriture peut parfois être plus éloquente que les mots.
Il est aussi bon en ligne qu'en cuisine.
Ah.
vous allez m'aider pour quelque chose de délicat, dangereux et tenu secret. Ne me décevez pas.
La cuisinier, l'espion. Carême.
Bon appétit.
Qu'est-ce que ça dit pour vous, ce qu'on entend là, Karen Lebarra, dans la facture?
Écoutez, c'est une bonne bande-annonce, c'est-à-dire que quand on connaît bien la série, on retrouve les grands thèmes, c'est-à-dire cette association qu'on peut peut-être discuter entre la représentation sexuelle et la représentation de la cuisine. Cette tendance qui a eu tout au long de la série, que je trouve passionnante, sur le rapport entre la cuisine et le pouvoir, c'est-à-dire la façon dont ça peut être une arme politique, hein, de faire un repas pour un grand roi. Il y aura une scène
Maurice sourit, on va lui donner la parole après, mais oui. Juste finissez votre phrase.
Tout à fait. Et puis, bien sûr, ce qui se passe autour de la fabrication. Je voudrais juste signaler que Benjamin Voisin, l'acteur, a passé 2 mois dans l'école Ferrandi et son prof, le chef Hatton, va venir vendredi 5 décembre, l'après-midi, nous parler de
comment il a rencontre du Havre.
Aux rencontres du Havre.
2025.
Absolument. Nous parler de comment il a appris les gestes à un acteur. Parce que comme le disait tout à l'heure Marine, c'est vrai qu'il y a des moments où on se demande si c'est du vrai ou du faux. Et quand les plats sont vrais et qu'ils sont filmés, c'est encore plus sensuel.
Pourquoi vous souriez, Maurice Sacco?
Ah, sur la partie politique, je dirais que c'est très français, hein, d'utiliser la gastronomie comme un outil politique. Et je pense que c'est ce qui fait aussi sa particularité, quoi. C'est que ça soit à l'Élysée ou ailleurs, il y a toujours eu cette notion de mettre en avant la cuisine, parce que toutes les choses se passent à table. Et donc, le cuisinier a cette force, mais en France, et je trouve pas beaucoup de parallèles avec la France, si ce n'est peut-être le Japon ou la Chine, où ils ont aussi des cours comme ça, avec une grosse importance sur la gastronomie.
Bon, il y a le volet politique, et puis il y a le volet social, bien sûr.
C'est super, mon meuf.
Tu dois manger des trucs sans foie mère avec ton père.
Non, mon père, tu parles, il fait jamais à manger en dehors de son resto. Puis il est hyper tradi, genre lui, il va mettre du yuzu à pas du citron, tu vois, genre...
C'est une tuerie, génial. Non mais il y a un côté vraiment, tu vois, plat d'auteur, à la fois simple et hyper déroutant.
Mmh. Ah, c'est délicieux.
Non mais là, faut ouvrir un resto pour servir ça. Hein. Tiens, un endroit qui te fait des propositions radicales, mais qui se la joue pas à grand restaurant. Quoi. Mmh. Je veux dire, non mais vraiment, d'accord, je présente pas. Oui. Tu vois, avec des assiettes hyper travaillées.
Puis en même temps, avec un côté un peu, je sais pas, tu vois, sans chichi et puis pas cher.
Franchement, ça, tu le fais à 15 balles, tu te fais une marge d'ouf, puisque ça coûte en bouffe.
Ah oui.
Vous êtes en train de dire qu'on pourrait ouvrir un vrai resto pour servir autre chose que des bourges.
Hein? Tu serais pas dans un endroit pour chasser des mecs avec des aiguilles.
Et avec des femmes aussi.
Ouais, des femmes. Des femmes.
Attendez là, il se passe quoi là? C'est les émeutes de la cuisine ou quoi?
Il est où?
Oh! Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans la rue!
Oh, ça c'est pour vous, Marine Bidot. C'est vraiment très 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 réussi aussi, Astronomia, mais ça dit complètement autre chose puisque ce pitch, donc, c'est on est à Paris en octobre 2005. Ils sont 3 vingtenaires qui gravitent dans le milieu de la restauration. On a Johanna qui est une jeune cuisinière qui est très talentueuse mais qui vient des quartiers populaires et qui se prend des salves de racisme, de sexisme dans une cuisine de restaurant gastronomique et qui rêve d'être chef parce qu'elle a tout pour l'être. On a Amandine qui est la fille d'un grand chef gastronomique qui sert en salle dans ce même grand restaurant très classique et qui, elle, rêve d'être serveuse. Et puis on a Vivian qu'on a entendu là à la fin, qui est un jeune critique qui lui rêve de renverser les codes des geeks culinaires, qui ressemble assez, je crois, à Alexandre Camas avec qui a fondé le guide du fooding que vous avez vous-même dirigé dès ses débuts et qui lui rêve d'être un critique culinaire un peu différent. C'est ça le point de départ.
Ouais, et d'ailleurs c'est assez joyeux. En fait, on voulait ça au fil de l'écriture, surtout Marie-Sophie Chambon, c'était raconter certes une époque, certes une violence, mais surtout une bande de copains qui voulaient s'émanciper de constructions hyper dure, hyper difficile, où personne ne trouvait sa place en subissant des violences, en effet, sexistes, racistes, homophobes, bon, tout, voilà, la cuisine en 2005, c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Vous imaginez, bon, il y a des anachronismes, hein. Une jeune femme de 25 ans en 2005, racisée, ne peut pas être seconde d'un palace, ça n'existait pas. Nous, on a voulu assumer cet anachronisme justement pour défendre un point de vue assez fort. Et puis, on est en 2025, donc on avait envie aussi de parler de ce qui se passait à travers la série, même si elle se passe 20 ans avant. Bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi quelque chose de très joyeux. Le fooding, tel que nous on l'a vécu à l'époque, parce que moi je ne suis pas une spécialiste des séries, mais je suis une spécialiste du goût de cette époque, c'était de se dire, voilà, on va casser les codes, on va, nous, 25 ans, 35 ans à l'époque, on va faire des choses pour nos potes, pour nos familles, dans des quartiers dans lesquels on vit, etc.
C'est l'histoire vraiment de cette révolution, de la bistronomie, hein, un terme qu'on doit à Sébastien Demorand, et la naissance de ce guide, le fooding. Comment vous l'avez regardé, Carole Desbarres ?
Je trouve que Marine en parle très bien, c'est-à-dire oui, c'est joyeux. Et justement, ça, c'est une différence. Même s'il y a des violences, même s'il y a une agression sexuelle dans un vestiaire, même si, etc., etc., ça reste quand même joyeux. C'est la création de jeunes gens. Et ça, c'est juvénile, c'est plein d'énergie, ça ne fait pas l'impasse sur les difficultés. Moi, j'ai par exemple beaucoup apprécié que trois personnages principaux, Johanna, qui est racisée, qui fait l'objet effectivement d'agressions racistes, mais aussi d'humiliations diverses, elle-même reproduit des humiliations envers quelqu'un avec qui elle travaille. Et je trouve ça vraiment bien, sur le plan sériel, qu'elle ne soit pas idéalisée. Et c'est une qualité narrative que de rendre un personnage complexe.
Ce qui a été important pour
Marie Midot.
Oui, pardon. Ce qui a été important pour nous, c'est de vraiment documenter. En fait, tout ce qui est montré dans la série est vrai. Rien n'a été inventé.
Et c'est vos souvenirs, c'est votre
surtout,
expérience.
C'est des interviews, des dizaines d'interviews que Marie-Sophie Chambon et moi avons faites avec ses chefs, des chefs femmes, des chefs hommes, pour témoigner de ce qu'ont été leurs expériences en cuisine. Donc, Marie-Sophie a orienté ses discussions sur elle a demandé à ces jeunes chefs de leur raconter en détail ce qu'elles avaient subi. C'était très important dans le travail de le rendre tel que c'était.
Ce que vous décrivez là, Marine, c'est ce qui fait le sel des séries depuis 20 ans. C'est-à-dire que depuis le 21e siècle, les séries sont très documentées. Et le spectateur sait qu'on ne va pas lui raconter des cracks. Et que ce soit une maison, un parloir funéraire dans Six Feet Under, un hôpital ou bien une cuisine, il sait qu'il va y avoir une base véridique, qui n'est pas simplement vraisemblable, mais qui est aussi véridique. Et non, on apprend des choses dans les séries. Nous, on le voit au Havre, quand on les monte sur différents thèmes, on a le même retour que celui que vous venez d'avoir, que ce soit sur la police ou que ce soit sur les hommes politiques. Et ça, c'est très très fort, parce que ça donne une épaisseur à cet art sériel, qui peut se prétendre art maintenant, chose que je crois il ne pouvait pas prétendre au XXe siècle. Et nous, ça nous donne des raisons de vouloir continuer à réfléchir sur les séries. Live together,
live together. C'est bien passé ?
Très bien, oui, merci.
Hey. Alors, vous avez pensé quoi ?
C'est une bonne cuisine familiale, maraîchère, bon marché. C'est très sympathique. Mais je partage pas vos intuitions. Je pense que il me reste beaucoup à apprendre encore. Hein.
Ouais, c'est-à-dire ?
Bah, rien ne remplacera la haute gastronomie. La vraie cuisine. C'est bon, ça improvise pas peintre, pas plus qu'on s'improvise cuisinier. Je pense que vous bercez d'illusions en pensant que les gens vont abandonner la vraie cuisine pour ça, là. Je vous dis ça, c'est pour vous, Vivien, parce que je vous aime beaucoup, hein, mais... Bon, je vais vous laisser, d'ailleurs. Il faut que j'y aille. Mais merci beaucoup, en tout cas. Ouais. C'est très sympathique.
Ouais, moi, je pense que c'est vous qui avez beaucoup à apprendre. Et je pense aussi que vous n'êtes pas prêt. Mais je sais pas, peut-être que vous ne serez jamais. C'est comme ça. J'aurais essayé. Je vous apporte l'addition ?
L'addition.
Ouais. Vous voulez régler comment ?
En liquide.
Oui.
Et avec une facture, s'il vous plaît.
Parfait. Bye.
Voilà, on sent le vécu dans cet extrait entre l'échange entre le jeune critique et l'ancien. Effectivement, les violences, c'est peut-être le point commun aussi entre toutes ces séries, une représentation du métier comme un univers de violences. Il y a les violences crues, il y a le sexisme, le racisme, il y a aussi la fatigue, la pression, le stress, les coups et beaucoup de sensualité et beaucoup de plaisir et une quête d'émancipation. Merci beaucoup, mais surtout restez avec nous parce que c'est l'heure d'écouter le dialogue des cuisines avec le chef Maurice Acco. Parce qu'il est 12h25 sur France Culture dans les bonnes choses. Maury, le poulet
DG. Donc oui, le poulet DG. Donc moi je vous amène au Cameroun avec une recette assez récente qui est devenue rapidement une des recettes nationales du pays. Alors tout d'abord, pourquoi ce nom ? Cette recette se nomme poulet DG en référence au directeur général, surnom qu'on affublait aux jeunes cadres de l'époque. Car cette recette est née dans les années 80, au sein d'un Cameroun en plein boom économique. À ce moment, une classe aisée fit son apparition, renforcée par le retour au pays de jeunes formés à l'étranger, venus participer à ce renouveau économique. C'est cette catégorie qui hérita des surnoms de directeur général. Ils appréciaient particulièrement les déjeuners dans des restaurants clandestins, chez l'habitant, nommés des chantiers, où les attendait une recette particulière, le poulet du directeur général. Réputée si riche et coûteuse que seuls eux pouvaient se l'offrir. C'est une recette particulièrement goûteuse, mais qui leur servait aussi à asseoir leur statut. Ici, pas de caviar et encore moins de truffes. Elle se caractérise par une multitude d'ingrédients dont le poulet, la banane plantain, le poivron, le gingembre et la tomate, que l'on fait mijoter ensemble, à la manière d'un poulet basquaise. Bien que cette recette fût très urbaine et élitiste au départ, elle se diffusera par la suite à toute la population et devint très populaire. Elle est aujourd'hui indissociable du patrimoine gastronomique camerounais, tout en gardant cet imaginaire d'opulence et de richesse. Et je vais vous raconter comment réaliser un poulet DG à la maison. Vous allez voir, c'est assez simple et ne nécessite pas d'ingrédients ou de matériel compliqué. Tout d'abord, préparez la marinade de votre poulet en mixant du gingembre, de l'ail, de l'oignon, un peu de poivre, du sel et un trait de vinaigre. Enrobez vos suprêmes de poulet avec de la marinade tout en conservant un peu de sauce pour la... tout en conservant un peu de marinade pour votre sauce à venir. Laissez mariner 4 heures environ. Taillez un oignon et du poivron en lanières, des bananes plantains en rondelles et faire frire séparément vos bananes plantains. Ensuite, faire dorer vos poulets dans une poêle chaude, puis débarrasser. Dans la même poêle, faites revenir vos oignons et le poivron. Puis ajoutez le reste de la marinade, une feuille de laurier et de la concassée de tomates. Laissez mijoter environ 15 minutes, puis ajoutez vos suprêmes de volaille et laissez cuire 10 minutes, à couvert à feu doux. Puis finir par disposer les bananes plantains et cuire 5 minutes de plus. Rectifiez l'assaisonnement si besoin et votre poulet DG est prêt. J'espère que vous aussi vous sentirez comme un directeur général en dégustant ce plat, car c'est la seule manière de l'apprécier pleinement. Bon dimanche.
Le plaisir et la gourmandise liés à la technique, ça c'est la recette du chef Maurice Acco. Merci beaucoup et merci Carole Desbarras. Les rencontres du Havre, c'est du 4 au 7 décembre 2025 au Havre.
Merci. Alain Passard le 7 décembre.
Merci, non, entre autres. Merci beaucoup, Marine Bidot. Bistronomia, c'est sur francetv.fr, mais aussi sur France Télé, tout court, France 2 même.
France.tv, France 2. France Télé. Non, France.tv, excusez-moi. Et sur France 2.
Voilà, et sur France 2, en tous les cas, le 15 décembre 2025. De toute façon, toutes les informations, les dates de diffusion, les jours du festival, les adresses, les références sont, comme chaque semaine, à retrouver sur France Culture. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France avec Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, avec Jean-Christophe Francis qui l'a réalisé, avec Grégory Wallon qui était aujourd'hui à la prise de son. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.